Studio Tamani, voici les informations en français.
Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition dont voici les titres. Plusieurs responsables de structures sanitaires sont placés en garde à vue par le pôle économique et financier. Ils sont poursuivis dans l'affaire des fonds de la COVID-19 pour atteinte au bien public. Une délégation ministérielle était hier en visite à Meneka. Il s'agissait pour elle d'apporter le soutien du gouvernement à la population victime d'insécurité et de situations humanitaires. Cannes Côte d'Ivoire 2023, les deux finalistes sont connus depuis hier. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. La RD Congo et l'Afrique du Sud joueront la petite finale. Voilà pour le sommaire. Le développement dans un instant avec Imirana Kilomaïga à la mise en onde de Gagné Kanté. Comme annoncé dans les titres, plusieurs personnalités ont été placées en garde à vue par le pôle économique et financier hier mercredi. Selon des sources judiciaires, ces responsables ont été interpellés dans le cadre de l'affaire dite fonds COVID-19. On annonce aussi l'arrestation du chef de cabinet du ministère de la fonction publique ainsi que de chargé de mission. Des arrestations qui font suite à l'annulation du concours de recrutement de la fonction publique. Maman Babakunta.
Ces responsables sont principalement des structures sanitaires. Ils sont poursuivis pour atteinte au bien public, faux et usage des faux et complicité. Parmi les personnes arrêtées figure l'ancien régisseur spécial auprès du ministère de Malien de l'Extérieur, l'ancien directeur général de l'Institut national de santé publique et ancien point focal COVID est également arrêté. Les anciens directeurs généraux de l'hôpital d'Imali, des CHI Point G et Gabriel Touré et du centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose sont également aux mains de la justice. Le directeur général de l'hôpital dermatologique de Bamako et les anciens DG des hôpitaux de Ségou et Sikasso sont aussi concernés par ces arrestations. Ce mercredi, des sources ont également rapporté l'interpellation de plusieurs cadres du ministère de la fonction publique. Ces arrestations rentrent dans le cadre de l'enquête sur les réseaux de fraude découverts lors du concours de la fonction publique. Un concours d'ailleurs annulé par le gouvernement. Poursuivi pour complicité dans l'affaire Sécriport LLC, l'ancien ministre Haruna Modibo Touré a bénéficié d'une liberté provisoire. C'était dans la soirée du mardi 6 février.
Le réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière est d'avis avec ces arrestations. Cependant, son président Moussa Ousmane Touré souhaite que ces présumés auteurs puissent être jugés. Il est joint par Maman Babakunta.
Il faut que les premiers auteurs des faits de corruption répondent de leur acte et de la plus belle manière. Mais rien ne sert de mettre en prison des gens juste pour endormir le peuple. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la maison centrale de Bamako est surpeuplée. Il n'y a même plus de place pour ces présumés délinquants financiers. Arrêter des gens et après leur accorder une liberté provisoire n'est pas un mal en soi. Le plus important, c'est qu'ils répondent de leur acte. Malheureusement, dans le cadre de la lutte contre la corruption, c'est ce qu'on ne voit pas. On n'assiste qu'à des arrestations, pas de jugement.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondello Mali, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Une délégation composée des ministres était ce mercredi à Meneka. Objectif, apporter le soutien du gouvernement à la population de Meneka. Plusieurs rencontres d'échange ont eu lieu avec les différents ministres sur l'insécurité et la situation humanitaire qui prévalent dans la région. Des assurances ont été données sur des changements. Le point avec notre correspondant sur place, Mohamed Ag Issa Faitan.
C'est une grande foule qui est sortie pour accueillir les ministres, tenant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « La population a faim et est malade. Plus de 1000 morts civiles en vue justice réparation. Les responsables de la région ont informé les ministres de la gravité de la situation. Nanout Koukia, maire de la commune de Bendemenaka.
La région de Menaka est d'abord victime d'une insécurité chronique. Et ensuite, il y a l'embargo des bandits. Se permettent de les renvoyer de leur obligation, il faut rentrer en ville de Menaka. Où ils vont rentrer, la ville de Menaka est déjà saturée.
Le ministre de la réconciliation, le colonel-major Ismaël Wagé, a rassuré la population. Selon lui, ils sont venus leur montrer et apporter le soutien des plus plus hautes autorités. Colonel-major Ismaël Wagué.
L'urgence aujourd'hui, c'est vraiment venir montrer, témoigner la solidarité de tout l'État du Mali auprès des populations mercenaires de Ménakan. Toutes les discussions sont en cours, non seulement lever le blocus qui a été imposé par les terroristes et créer les conditions pour que Ménakan soit ravitaillé de façon continue.
Ajoutons qu'un convoi de véhicules escorté avec des vivres a quitté Gao pour Ménakan ce mercredi. D'autres suivront selon des responsables que nous avons rapprochés. Mohamed Ag Issafetan, Ménakan, Studio Tamani.
Les journaux de la CAN, suivez l'actualité de la CAN sur Studio Tamani.
Les éléphants de la Côte d'Ivoire et les Super Eagles du Nigeria s'affronteront ce dimanche 11 février 2024 à Abidjan. Ces équipes qualifiées discuteront la finale de la compétition de cette Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Le point avec Sita Sidibé.
L'équipe ivoirienne qui a passé miraculeusement la phase de poule se retrouve en finale de sa CAN. Après le Sénégal et le Mali, c'est la République démocratique du Congo qui est la nouvelle victime des éléphants. Les Ivoiriens sont qualifiés en finale en battant les Léopards en demi-finale par 1-0. Le seul but de cette rencontre a été marqué par Sébastien Allaire à la 65e minute, son premier but de la compétition. Pour espérer soulever le trophée, la Côte d'Ivoire doit vaincre le Nigeria qui précédemment avait battu les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Après le temps réglementaire et les prolongations, les Super Eagles ont fini par gagner 4-2 dans les séances de tir au but. La finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 est prévue ce dimanche 11 février 2023 au stade Alassane Dramane Ouattara, DBMP, à Abidjan à 20h.
La finale de la CAN Côte d'Ivoire sera une très belle rencontre, c'est du moins ce que pense le consultant sportif Adama Maïga. Selon lui, il s'agit des équipes qui ont déjà remporté la Coupe des Nations, la Coupe d'Afrique des Nations. Toutefois, pour ne pas décevoir son public, il pense que les Ivoiriens étant à domicile feront tout pour remporter cette 34e édition de la CAN. Il est joint par Aïssata Diarra.
La finale, ça va mettre en opposition des équipes qui ont déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Nous savons que le Nigeria, avec 3 trophées dans le sac et la Côte d'Ivoire, 2 trophées, chacune de ces équipes va essayer d'augmenter un peu sur le nombre de trophées. Ce sont des équipes qui se connaissent. Je pense que nous pouvons nous attendre à un très bon match de football entre deux équipes. Donc surtout la Côte d'Ivoire, devant son public, va essayer de tout faire avec toutes les difficultés que cette équipe a eues au premier tour, d'essayer de soulager son public afin d'égaler du Nigeria qui, je le disais, est déjà à 3 trophées.
La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a atteint en son dernier virage, lancé le 13 janvier dernier en Côte d'Ivoire. Selon certains journalistes sur place, cette édition a respecté toutes ses promesses, même si d'autres soulignent quelques points noirs. Écoutons leurs réactions au micro de Ziadata Maïga.
La 34e Coupe d'Afrique des Nations a été l'une des meilleures Coupes d'Afrique en termes d'organisation, mais aussi de spectacle. Le seul point noir peut être la billetterie qui était en ligne.
Je pense que ça a été une CAN réussie, hein, avec les stades de qualité. C'est vrai que la Côte d'Ivoire n'avait pas une très bonne équipe, mais la population est sortie. Nous n'avons pas entendu aucune équipe se plaindre des conditions d'hébergement, de même de restauration.
Je dirais sur le terrain maintenant, toutes les équipes avaient un très bon niveau. Des pays qu'on n'attendait pas forcément dans les derniers carrés qui sont venus. Et les pays qu'on voyait comme des favoris pour cette coupe, pour la plupart, n'ont pas pu accéder au top 8.
La Cananine anecdote nous plonge dans les souvenirs de la CAN 2013 organisée en Afrique du Sud. Lors de cette compétition, le meneur des étalons du Burkina Faso, Jonathan Pitroepa, après avoir été expulsé en demi-finale, il est blanchi 2 jours après et joue la finale. Ziadata Maïga.
Le 8 février 2013, les étalons du Burkina Faso jouent contre les Black Stars du Ghana en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Afrique du Sud. Le meneur de jeu burkinabé, Jonathan Pitroepa, est expulsé après avoir écopé de 2 cartons jaunes, synonyme d'une privation à la finale à laquelle le Burkina se qualifie. Mais 2 jours après le match, le milieu de terrain des étalons est blanchi par la commission de discipline de la CAF qui décide d'annuler son 2nd carton jaune. Toute chose qui lui permet de jouer la finale quelques jours plus tard. Mais le Burkina est battu par le Nigeria. Il faut rappeler qu'un joueur égyptien a aussi bénéficié de cette décision lors de la CAN 1986 en Égypte.
18h09, c'est ce qui met fin à cette édition présentée par Imran Akilo à Meiga. Mais ne décrochez pas, juste après le magazine Tous les enfants du Mali, vous pouvez suivre la rediffusion du grand dialogue du 13 décembre 2023 intitulé « La corruption est mal sans remède ». Merci de l'avoir suivi. Le châtiment corporel est interdit dans les établissements scolaires depuis 1962 au Mali. Une note publiée le 24 janvier dernier rappelle aux responsables d'académies d'enseignement le respect de cette mesure. Mais le débat sur le châtiment corporel est rouvert depuis ce mercredi 7 février suite à la publication d'une vidéo qui fait polémique sur les réseaux sociaux. Dans la séquence, nous pouvons en voir des objets tranchants fabriqués par des enfants à l'aide d'un compas et d'un bic. Alors, la punition corporelle est-elle nécessaire à l'éducation des enfants? Le magazine Tous les enfants en 10 jours s'intéresse à la question. Il est réalisé et présenté par Fatoumata Kodjo avec le concours de nos correspondants.
Dans la dite vidéo, la directrice du groupe scolaire Mamadou Konaté de Bamako mentionne des objets pointus et tranchants fabriqués par des élèves du premier cycle. Les responsables qui étaient face à un dilemme s'interrogent sur la nécessité du châtiment corporel pour éduquer les enfants à l'école. Pour le directeur coordinateur de l'établissement, seule la sensibilisation est possible. Abdrahmane Diallo.
La directrice a intercepté des enfants avec des captions sur lesquels il y a des aiguilles de compas. Tous les objets tranchants sont formellement interdits dans l'enceinte de l'école. Et la directrice a déjà interpellé les parents par rapport à ça. Il n'y a plus de châtiment corporel. La seule chose, c'est de continuer à les sensibiliser et à leur montrer le danger de la chose.
Certains élèves de l'établissement sont conscients du danger lié à de tels comportements. Certains se disent favorables au châtiment corporel pour redresser leurs camarades responsables de ces actes. Mais d'autres prônent le dialogue.
Les objets pointus sont dangereux. Ça fait peur. Les responsables doivent être punis.
Il est interdit d'apporter ces objets pareils à l'école.
Tout élève qui agit aussi doit être corrigé.
Il n'est pas bon de frapper les enfants. Il est bon de les sensibiliser.
Il y a beaucoup d'enseignants qui frappent trop.
Je n'aimerais jamais qu'on frappe mon enfant à l'école, dit cette maman qu'on a rencontrée. D'autres parents estiment qu'il faut fouetter l'enfant que si c'est nécessaire.
Ça doit être interdit parce qu'il y a des enseignants qui frappent les élèves jusqu'à les blesser. Je n'aimerais jamais qu'on frappe mon enfant à l'école.
Je ne veux pas que mon enfant soit frappé à l'école.
Si ça dépasse excessivement, là c'est trop. Mais pour que l'enfant aussi ait peur de l'enseignant aussi, il faut au moins souvent le fouiller.
Pour le secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves étudiants, l'encadrement de l'enfant se passe à la fois à l'école et à la maison. Daoura Sako.
Sa famille, ils doivent être très très regardants sur l'évolution du comportement de l'enfant et prendre les mesures qu'il faut pour l'amener à un meilleur comportement. Les enseignants aussi doivent être très regardants sur les outils que les élèves avaient en classe.
Comment encadrer l'enfant à l'école sans châtiment corporel? Serouloa, pédagogue, répond.
L'enseignant a besoin d'un effectif très réduit dans une salle de classe, de matériel, et surtout l'enseignant a besoin de l'aide des parents. Parce que l'éducation des enfants ne commence pas à l'école. Les parents ont une grande responsabilité à jouer dans la discipline chez un enfant.
Le châtiment corporel engendre d'énormes conséquences chez les enfants, soutient le ministère de l'Éducation. Mamadou Kanté, directeur national adjoint de l'enseignement fondamental, rassure que l'absence de châtiment n'est pas contraire à l'encadrement et à la discipline de l'enfant.
Le châtiment corporel, ça peut provoquer beaucoup de dégâts, des infirmités, des blessures graves. Donc, c'est compte tenu de tout cela que les autorités scolaires ont décidé de se surseoir vraiment au châtiment corporel dans nos établissements. Quand on sait en plus que nous avons affaire avec des êtres fragiles, ils méritent d'être protégés.
Le ministère de l'Éducation ajoute que les élèves peuvent être encadrés par des mesures disciplinaires telles que le renvoi. Quant aux enseignants, ils sont pénalement poursuivis en cas de faute grave sur un enfant.